Vous écoutez RMC.
Démarrons sur les différents modèles de multipropriété. Aujourd'hui, on a l'impression... Pas multipropriété, il n'y a pas que de la multipropriété. Saint-Étienne, tout à l'heure, on en parlait, Daniel, est un modèle un peu spécial parce que finalement, c'est le gars de Toronto, il est de chez lui. Oh, si, apparemment, il a deux clubs, tu me diras, ça fait multipropriété.
Qu'est-ce que tu définis dans multi à partir du moment où tu n'as pas le modèle qu'on connaissait ancien de « je suis un propriétaire, j'ai mon club ». Et j'essaye de faire marcher mon club. Après, on a eu le gars qui avait un club et qui se diversifiait avec, pourquoi pas, le basket. Enfin, autre chose que du foot. Et puis, on a maintenant, à travers souvent une zone géographique un petit peu plus large, des gens qui ont plusieurs clubs du même sport.
Alors, première question, Pierre-Emmanuel. On a l'impression qu'il y a autant de multipropriétés que de clubs. Qu'il n'y a pas un modèle unique et que finalement c'est bien compliqué de faire le ménage et de distinguer le bon grain de l'ivraie, comme on dit.
Je suis absolument d'accord avec ça. Je pense qu'à la fin, on se rendra compte qu'il y avait certains modèles qui étaient assez vertueux et d'autres qui ne le sont pas, voire qui sont potentiellement contraires à une forme d'éthique ou autre. Je pense par contre qu'il y a beaucoup de procès d'intention qui sont faits sur le concept même de la multipropriété et parfois, je pense que c'est un peu dur et que ça néglige certains aspects vertueux de la multipropriété. On va y revenir potentiellement dans le cas de Strasbourg tout à l'heure. Et je pense qu'il est intéressant aussi de donner cette perspective, de voir ce que des fonds d'investissement qui apportent beaucoup de capitaux dans les clubs peuvent apporter, notamment en termes d'infrastructures, de professionnalisation. On a parfois souffert, et vous en plaignez souvent, d'un manque de professionnalisme sur certains sujets de clubs professionnels. La multipropriété, ça peut aussi amener de la professionnalisation.
Non, mais la seule critique réelle et qui tienne la route dans la multi, c'est quand on essaye au départ de faire la différence entre la multi horizontale ou verticale. Je suis propriétaire d'un club en Angleterre, et je suis propriétaire d'un club en France, que le club dont je suis propriétaire en France ne me sert que de succursale pour le club dont je suis propriétaire en Angleterre.
C'est de Strasbourg. Donc.
C'est là que tombent les critiques, parce que on se dit que finalement, le club dont il est propriétaire en France, il n'est pas fait pour performer. Il n'est là que pour, en gros, faire grandir ses joueurs, essayer de faire un petit peu de business et la limite à cette critique, c'est uniquement, et c'est comme ça qu'essaye de se défendre Strasbourg et notamment Marc Keller, si on n'avait pas eu ce modèle-là, on serait mort.
Alors,
c'est ça. Moi, la multi-horizontale, au fond, ne me pose pas de problème parce que j'ai bien compris avec l'évolution économique du foot.
Ce que tu appelles multi-horizontal, c'est Textor.
Exactement. Si en gros, je veux que Botafogo soit champion et je veux que Lyon soit champion, ça ne me pose pas de souci.
Ah, mais sur l'histoire.
Parce que l'économie fait que de toute façon, tu n'as plus de droits télé. Il faut trouver des nouveaux leviers économiques. Ouais,
sur ce que tu décris, Daniel, je suis d'accord. Mais pour le cas de Strasbourg, je trouve qu'on n'entre absolument pas là-dedans. Par exemple, quel joueur de Strasbourg aujourd'hui. Tu pourrais en dire qu'il est aujourd'hui en pépinière pour Chelsea.
André Santos,
il appartient à Chelsea au départ. Donc, il est venu s'aguerrir à Strasbourg. C'est un cas. Mais tu peux pas dire que... Et encore, j'aimerais le voir titulaire à Chelsea. Non, mais je ne suis pas sûr non plus.
Il n'y a pas que ça. Je n'ai pas envie que le club... en gros, on va faire simple, on va schématiser le petit frère. Mon but n'est pas qu'il performe réellement. On va vivoter, ça va me servir. Encore une fois, je fais passer des joueurs. Éventuellement, je les vends.
C'est pas ce qu'ils annoncent, hein.
Oui, d'accord. Et j'ajoute. Je ne suis même pas très présent. Et en fait, ce dont souffrent les gens, ceux qui sont attachés à leur club, c'est de voir qu'en fait, ils sont dirigés par du hors-sol très très loin et qu'on se dit, bah en fait, t'es président, mais t'es pas là, on n'a pas de lien, on n'a pas d'affect. Si ça se met complètement en place, où t'as une équipe qui est là, présente et qui incarne, c'est le manque d'incarnation. C'est de là que vient souvent la critique. Et quand je disais que Marc Keller, bah il était bien gentil parce que de toute façon, c'est lui qui a sauvé le club et que de toute façon, les Strasbourgeois ne peuvent être que à vie derrière lui et le remercier pour ça. Mais là, on a bien compris qu'aujourd'hui, de toute façon, en termes de décision, bon, il allait avoir la chaise au bout de la table et que ceux qui allaient prendre les décisions allaient être ailleurs et que s'il servait plutôt bien le champagne en loge, c'était bien, mais qu'en gros, il avait perdu le pouvoir. Non, mais il a perdu clairement le pouvoir.
Je suis pas d'accord avec ça. On va revenir après sur les raisons pour lesquelles on a vendu, mais allons directement sur ce sujet-là. Un club de foot, c'est pas seulement mettre 11 joueurs sur un terrain. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui à Strasbourg? Il y a une amélioration des infrastructures qui est extraordinaire. On a un nouveau stade, on a des nouveaux terrains d'entraînement des pros, on a une nouvelle académie.
Et dans quel but ça?
Dans quel but?
C'est ça, les supporters, ils se le mangent en tartine le matin, ils s'en foutent.
Le stade, ils se le mangent pas en tartine le matin. Et après,
ça sert à quoi?
Nous, on l'a vu.
En fait, il faut qu'il y ait un but.
Mais ça sert à quoi? Déjà, pour attirer des bons joueurs, aujourd'hui, vous dites souvent, il faut visiter les infrastructures.
Non, pour attirer des bons joueurs, il faut du blé. Le joueur, il vient s'il y a du blé.
Non, il vient aussi s'il a le sentiment qu'il va progresser. On n'en parle pas des tout meilleurs mondiaux.
Oui, donc des jeunes.
Progresser ou avoir, pouvoir s'entraîner dans de bonnes conditions, pouvoir s'entretenir dans de bonnes conditions, c'est hyper important.
Okay.
L'académie, c'est pour les jeunes, et là, c'est le développement d'un centre de formation, mais c'est vertueux aussi
pour... Si c'est pour gagner la Gambardella,
Et après, le stade, le fait qu'il soit plus grand, le fait qu'il soit plus fonctionnel, qu'on ait une expérience supporter qui soit meilleure, c'est fondamental.
Oui, qu'il y ait des revenus
mais
jour de match.
C'est pas seulement les revenus.
Mais là, vous ne me décrivez pas le but.
Le but, c'est que les Strasbourgeois déjà soient contents, qu'ils aient une équipe compétitive, qu'ils aient un stade fonctionnel dans lequel ils puissent venir plus tôt, passer des bons moments en famille, sécurisés.
Mais d'accord, mais compétitif pour faire quoi?
Alors, sur la compétitivité, en tant qu'ancien propriétaire de club de football, vous assurez que même si on est dans une optique uniquement de valorisation des joueurs, ce que je pense pas être le cas, mais si on était là, le fait de jouer la Coupe d'Europe, par exemple, ça survalorise les joueurs parce que ça les expose à un niveau auxquels on peut prétendre après les vendre beaucoup plus cher. Vous savez, un joueur qui n'a fait ses preuves qu'en championnat de France, on le vendra.
On est d'accord.
Donc, si on était là, déjà, on serait aligné sur le fait qu'il faudrait qu'on soit en Coupe d'Europe.
Okay.
Moi, je pense qu'un supporter de Strasbourg, si on lui dit tu seras en Coupe d'Europe régulièrement, il est content.
Ça, c'est sûr, mais c'est pas ce qu'il dit.
C'est l'ambition, c'est pas l'ambition cette année.
L'ambition affichée de Blanco.
Après, en fait, il y a une carte en France qui est assez intéressante parce que si on disait aux gens ce soir où il y a de la multipropriété en France, sur les trois divisions, on sera assez surpris de voir qu'il y en a beaucoup plus qu'on peut imaginer. C'est un truc finalement qui est assez peu répandu parce qu'on prend toujours l'exemple de Strasbourg. T'as des tas de clubs qui détiennent ou sont détenus par des tas de fonds.
T'as Lorient pour qui ça s'est pas très bien terminé en Ligue 1 la saison dernière.
Je regardais, fais le point. Il y a même en national, t'as des clubs qui sont détenus en multipropriété. Donc la réalité, elle est là. Moi, ce qui pour faire simple quelque part, qui est du quel que soit votre avis à tous les deux finalement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a une ambition sportive? Ou est-ce qu'il y a une ambition économique? Ou est-ce qu'il y a les deux en même temps? De la valorisation de joueurs, d'actifs, et puis quand même des résultats sportifs. Je pense que ce qui va toucher le plus à un moment donné, puisqu'on parlait de ça tout à l'heure sur les gens vont au stade, je le vois partout où je peux aller, c'est le sentiment de dépossession.
Bien sûr, ce que je disais tout à l'heure, la présidence lointaine, le manque d'incarnation.
L'incarnation des dirigeants, mais même en règle générale, tu as les dirigeants, la désincarnation, tu as ensuite le type de recrue, y compris le nombre de recrues étrangères, une sorte de légion étrangère qui débarque, et sans faire du régionalisme, mais le manque d'ancrage fait que, je parlais d'invisibilité tout à l'heure, ça c'est lié au droit télé, et maintenant si en plus un des trucs qui marche toujours, c'est-à-dire l'ancrage régional, il est un peu battu en brèche par le fait que c'est quoi cette équipe, elle ressemble pas à grand chose, t'as des mecs qui passent, au milieu de tout ça t'as des joueurs formidables qui arrivent à s'attacher, mais la plupart passent et repassent et se font vendre. Est-ce que c'est pas ça finalement, avant de parler de business, la dépossession pour les supporters qui est le plus terrible?
Je comprends, mais prenons encore l'exemple de Strasbourg pour être très concret. Pourquoi un sentiment de dépossession à part un procès d'intention? Parce qu'aujourd'hui, le président, c'est Marc Keller, c'est le président qu'ils ont toujours connu. L'équipe de salariés, l'équipe dirigeante, 100% la même. L'expérience au stade, en ce moment, c'est un peu des travaux, mais toutes les traditions sont là. Gilbert connaît l'ambiance du stade de la Méno, ça ouvre les portes 3 heures avant. Toutes les traditions locales, les tarts flambées, les concerts sont respectés, la tribune famille Europa Park comme avant. Le supporter, à part si c'est ce procès d'intention, il y trouve son compte. L'équipe est fortement améliorée, jamais on a autant investi dans l'équipe à Strasbourg.
On a plus de 30 millions.
On a plus que ça. De mémoire de supporter, ça fait plus de 40 ans, j'ai jamais vu ça.
Mais pourquoi les gens sont pas, n'adhèrent pas tous alors?
Peut-être simplement sur l'identification en fait. Parce que t'as des joueurs qui sont là. Là, je regarde la compo du dernier
les
match.
Les mecs qui viennent,
peut-être trois joueurs qui sont là. T'as Habib Diarra, effectivement, qui est quelqu'un du cru. Absolument. Tu as ses bases devant, mais c'est sorti de ces deux joueurs-là. T'as Doucouré qui avait été acheté à Valenciennes il y a quelques temps. Ça fait trois joueurs sur 11.
Et tu sais que
tout le reste des joueurs, les huit autres, sont des jeunes qui sont arrivés là et qui ont vocation à partir sous deux, trois ans.
Tu sais que le gars peut partir, va rester un an.
C'est ça en fait qui pose problème.
Mais est-ce qu'avant c'était pas le cas déjà? Pardon, à Strasbourg, tous les joueurs, et tout le respect que j'ai pour mon club, un joueur, quand il est à Strasbourg, potentiellement, il peut aspirer à mieux s'il performe, qu'il soit alsacien ou pas.
Non, mais t'avais quand même, et après, je ne sais pas d'idéaliser en disant que c'était mieux avant, effectivement, parce qu'il y avait quand même une base de joueurs, un gardien, une charnière centrale, un capitaine, qui, même si c'était 4-5 ans, pouvait rester, et c'est de l'incarnation. Je vois là, puisque même, c'est assez marrant, puisque tu veux, même Rennes, tu vois, pour te donner un contre-exemple, entre guillemets, tu as un actionnaire qui est connu, mais ils ont fait un recrutement un peu particulier cette année. Très étranger, avec des joueurs qui ne sont pas connus des gens. Il y a en ce moment une sorte de flottement entre les supporters et le club pour ça. Je dis juste ça.
Est-ce que c'est pas simplement les résultats qui font ça?
Non, pas seulement. Parce que
si Strasbourg ou Rennes étaient dans les 5 premiers.
Je dis ça parce que c'est justement un exemple pour montrer que sortons du contexte économique et de la multi pour dire à partir du moment où tu coupes trop brutalement certains, je dis ça parce que même quand ça se passait pas bien l'an dernier, quand t'as des Bourigeaud, des Terrier, les gens se rattachent un petit peu à quelque chose. Donc, ce qui me semble, là, par exemple, 3, c'est pareil. À 3, on a vendu un truc. Mais quand les dirigeants sont venus ici expliquer un peu le projet, économiquement, ça tient la route, ce qu'ils te disent. Mais ça tient la route quand t'es autour d'une table de réunion. C'est-à-dire que les gars, te parlent d'actifs, te parlent de développement du centre de formation, des infrastructures. Quand t'es là, tu dis, pas mal le projet. Sauf que derrière, sportivement, tout tombe. Les gens se désintéressent et ne se sentent pas représentés par leurs joueurs. Et là, on a l'impression que la multipropriété, elle accélère ce processus de désincarnation.
Je vais même poursuivre. En fait, le sport et le foot a notamment cette particularité, c'est le storytelling. C'est l'histoire que tu racontes et l'attachement territorial. Si tu négliges cet aspect qui confine au romantisme et qui peut paraître désuet ou qui peut sembler... dépassé, où on peut se moquer de ça. Dans l'after, pendant des années, Gilbert y racontait, et moi j'adorais cette histoire, moi j'aimais bien, et d'ailleurs, pour le coup, je la notais moi-même, dans mes années où j'allais très souvent à la Médo quand ils étaient en Ligue 2, quand je commentais les matchs, c'était, parce que Strasbourg, en plus, l'histoire veut ça a été un peu un des premiers à être tombé dans des directions un peu folles avec IMG, avec des présidents qu'on connaissait pas qui arrivaient très bizarres, les McCormack et compagnie et tout ça. Et justement, c'était terrible ces années-là. Et moi, l'histoire qu'on me disait.
C'est l'anniversaire de Gilbert Grèce aujourd'hui.
C'est vrai.
83 ans.
L'histoire qu'on me racontait, c'est
beau.
Strasbourg, c'est très fort. C'est des Alsaciens. Les Alsaciens, ils sont très attachés à leur terre. C'est un club, il faut qu'il y ait des Alsaciens. Ce sont des Alsaciens qui dirigent. Il y a que comme ça que ça marche, parce que il faut que toute la communauté économique, tout l'écosystème fonctionne et tout. Et l'histoire qu'on a racontée, parce que Strasbourg, on les avait un peu oubliés avec la déchéance. Et quand ils réécrivent leur histoire, où ils redémarrent de tout en bas, ils écrivent une histoire qui est fascinante, qu'on a suivi, qu'on a adoré avec Marc Keller qui revient avec son frère, il remonte le club, c'est les Strasbourgeois, c'est l'Alsace qui est à la Méno, c'est la Méno, c'est le feu machin. Ils arrivent même à gagner un trophée, donc c'est une histoire extraordinaire
avec des affluences dingues,
avec
même
des affluences folles et tout. Et là maintenant, au bout de ça, tu deviens le petit frérot de Chelsea. Et puis, ton président, il a vendu. Il a fait un très, très bon retour sur investissement. Il s'est bien gavé, mais ça, je suis pas contre l'oseille, je suis pas communiste. Et le club, aujourd'hui, les gens ont peur. Et moi, cette peur, je la comprends.
Mais moi, la peur
de l'inconnu, la peur de mecs qu'on connaît pas, la peur de pas savoir vraiment qui est le président, de pas savoir ce qui va se passer. Est-ce qu'on est là juste pour recycler les
réponses de Pierre Emmanuel et après on sortira du cas Strasbourgeois pour parler.
Ça permet de remettre un peu en perspective l'aventure qu'on a vécue, que t'as très bien décrite au départ. C'était un groupe d'investisseurs alsaciens. On est reparti presque de rien. On a reconstruit un modèle qui est différent. On s'est inspiré de ce qui marchait. dans certains clubs, même en Allemagne un peu, puisqu'on a une culture aussi à Strasbourg. Et quelque part, l'histoire que tu racontes, si tu mets un peu de perspective financière, c'est qu'en fait, on était un groupe très responsable parce qu'on ne voulait jamais prendre en otage la ville de Strasbourg de notre groupe d'investisseurs et des limites qu'on avait. Nous, on a gagné de l'argent chaque année parce qu'on n'avait pas le choix. On a tout réinvesti systématiquement dans l'équipe et dans les infrastructures parce qu'on n'avait pas le choix. Et puis, quand on est arrivé dans le professionnalisme, puis en Ligue 1, on a eu coup sur coup la faillite de Mediapro, on a eu le Covid, tout ça, on devait survivre. Et on s'est bien rendu compte que même tout l'argent qu'on avait mis de côté dans l'optique de faire le nouveau stade, avec bien aidé par les collectivités locales à Strasbourg, mais quand même, ça nécessitait beaucoup de fonds de la part du propriétaire actionnaire, et les infrastructures qui étaient un peu désuètes parce qu'on n'avait pas pu... parce que déjà le club avait eu des problèmes avant et était déjà en retard du point de vue des infrastructures. Et tout ça, ça fait que dans un souci de responsabilisation, on avait aussi vu un peu que il y avait un désamour, un peu que les audiences étaient en baisse. Tout ça, c'est de l'anticipation quand on est président de club.
Qu'est-ce qui est en baisse ?
On avait bien vu que l'exposition du football français, elle était moins importante quand on a vu la faillite de Mediapro. On avait bien vu que ça galérait un petit peu.
Donc c'est pour des raisons financières que Strasbourg est allé à la multi. Parce que aussi Marc Keller en avait peut-être pas toutes ces années.
Il y a un point d'histoire qu'il faut quand même rétablir, Pierre-Emmanuel. Je pense que si le groupe d'investisseurs que vous étiez avait trouvé un Alsacien milliardaire prêt à reprendre, je pense que c'était pour lui.
Dans ces cas-là, c'est ce qu'il faut dire. Il ne faut pas raconter d'histoire.
Mais c'est ça.
Tourner autour du pot. Il ne faut pas dire c'était... c'est génial que Blouko, machin et tout. Non, c'est juste qu'il avait envie de faire autre chose dans sa vie et tout, c'est tout à fait.
Non, c'est que c'est Blouko, c'était l'acheteur qui était là, Daniel. Il n'avait pas 50.
Et bien donc voilà. Il ne faut pas nous dire que c'est forcément formidable. C'est faute de mieux parce qu'on n'a pas eu mieux. On n'a pas eu le milliardaire alsacien. C'est comme l'OM. L'OM, ils adoreraient avoir le patron d'Haribo ou de la Marseillaise, de la Pétanque, de je sais pas quoi, qui soit hyper identifié. Ils ont un Américain, ils font avec.
On peut toujours rêver, mais en attendant, ce que nous on a fait, c'était un choix très responsable, parce que nous, quand on a vendu, la dernière chose qu'on voulait, parce qu'on est aussi des amoureux du club, ce qu'on voulait pas, c'est vendre à un cash-car ou je ne sais quoi. Ce qu'on voulait, c'était des gens qui s'engagent à investir les infrastructures, dans l'équipe, qui permettent avec les collectivités locales d'aller au bout du projet du stade. Et quand même, c'est une grande responsabilité qu'on a pris parce qu'on voulait pas justement être vu comme des gens qui terminent mal leur histoire.
Et l'histoire, on a quand même le droit.
Si on fait pas de procès d'intention, pour l'instant, à aujourd'hui, il n'y a pas de raison de considérer que c'est une chose,
les gars. On a quand même le droit, et c'est pareil dans tous les secteurs de l'économie, on a quand même le droit parfois d'être un peu réticent vis-à-vis de cette globalisation, mondialisation. Moi, je suis sûr qu'aujourd'hui, si on avait fait un sondage il y a 3 mois auprès de tous les supporters du PSG, où on leur avait dit, vous savez les gars, le Qatar, ils sont prêts à vendre. Et Antoine Arnaud, au lieu d'acheter le PFC, il va acheter le PSG. Mais je crois que les supporters du PSG, mais à 250%, ils y allaient. Pour que ce soit un Français, supporter du PSG depuis qu'il est gamin, fleuron de l'industrie française, qui achète le PSG, que l'entreprise de glam absolu de la France, machin, prenne ce club qui, en plus, a dans son ADN été créé déjà par un mec de la mode. Mais on aurait aimé tous adorer ça. On aurait aimé le Qatar, on les raccompagnait à l'aéroport.
Alors qu'en fait,
on a le droit d'être attaché à une tradition, alors qu'en fait, des investisseurs français. On a le droit.
Juste rapide. Alors qu'en fait, c'est Ivan Postel qui va racheter Paris Saint-Germain.